Eh bien, regardez, Jésus, il a parlé des temps de la fin. Alors, moi, je vous préviens tout de suite, je suis pas là pour vous expliquer, on est dans les temps de la fin, et on est, il va se passer ci, il va se passer ça. Regardez ce que Jésus, alors j'ai pas fait de PowerPoint, mais comme je sais que vous n'avez pas beaucoup, peu d'entre vous ont leur Bible avec, donc on va vous passer les versets au fur et à mesure. Jésus a enseigné en Matthieu chapitre 24, versets 1 à 3. Il a enseigné ceci, ça va, t'y arrives ? Ouais. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Et c'est vrai que dernièrement, on m'a offert un livre sur Jésus, c'est quoi, c'est l'Observateur ? Non, c'est quoi, je sais plus. C'est Géo. Voilà. Et on peut, dans l'intérieur, c'est un très bon article, hein, c'est un journaliste qui a fait le boulot, mais on y voit la construction du temple à l'époque de Jérusalem, et c'est extraordinaire. Moi, j'étais émerveillé par cette construction. Et je comprends les disciples à ce moment-là qui disent, les disciples qui s'approchent pour faire remarquer les belles constructions du temple. Et il leur dit, voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Ah ben dis donc, pour égayer l'ambiance, Jésus, il était pas mal, hein. Et puis au verset 3, il ajoute, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde ? Vous savez, aujourd'hui, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est connaître les signes de ce que sera la fin du monde. Et clairement, Jésus, d'ailleurs, si vous lisez le chapitre 24, il répond clairement, il donne des signes. Et des signes très intéressants, parce qu'ils ne sont pas seulement des signes géopolitiques, parce que c'est le mot à la mode en ce moment, mais des signes de ce que deviendra l'Église, de ce que vous allez devenir, de ce que le corps de Christ va devenir. Et ça fait des frissons dans le dos quand même, lorsque je lis ce passage. Le but de mon message n'est pas de déterminer donc si nous sommes dans les temps de la fin, mais comment nous allons essayer de nous comporter au mieux dans ces temps de la fin. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être, quel que soit le jour, l'heure que Dieu a choisi de me prendre avec lui, c'est de me trouver face à lui et d'être trouvé juste, vrai, et toujours debout. Il y a le pied dehors, ouais, voilà. Et vous savez, quand vous lisez le livre des chroniques, chapitre 12, verset 32, il est question des fils d'Issachar, écoutez bien ceci, c'est vraiment important, qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'ils devaient faire, etc., etc. Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, il y a plein d'enseignements. Et notamment, je suis un enseignement assez régulièrement d'un homme qui s'appelle Massicotte. Vous avez déjà entendu parler, c'est un évangéliste qui est à Jérusalem. Très bon enseignement, hein. Mais ça, Mario Massicotte, voilà. Mais ça me pose un problème. Il annonce les temps de la fin, etc. C'est très biblique, hein, ce qu'il dit, hein. J'ai rien contre lui. Mais que nous enseigne-t-il de faire par rapport à ce qu'il a découvert dans la parole de Dieu et par rapport au temps présent? Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des tonnes de prophètes qui se lèvent dans notre monde qui disent ce sont les signes de la fin des temps. Il va se passer ça, ça, ça. Mais très peu vous diront comment et ce que vous devez faire. Ou alors parfois, quand ils vous disent ce que vous devez faire, ils sont complètement à côté de la plaque. Et moi, ça me pose problème. Parce que moi, je veux comprendre les temps dans lesquels je me trouve, mais surtout, là où je suis, je veux saisir et je veux avoir la révélation de ce que Dieu veut faire à travers moi et pour moi et en moi et etc. Et Jésus ici répond à la question. Alors, il va répondre à la question de ses disciples. Oui, il y a des signes de la fin des temps. Et malgré ces signes qui sont dits par Jésus, certains vous diront, la fin est proche. D'autres vous diront, c'est pas pour tout de suite. Et d'autres vous diront, oh là là, pff, on a le temps. Il va se passer des centaines d'années avant que Jésus revienne. Avez-vous déjà vu, avez-vous discuté avec des frères et des sœurs? Avez-vous échangé sur le sujet? On en a parlé d'ailleurs hier matin entre hommes. Et c'est ce qu'on se disait. On disait, mais en fait, il y en a plein qui pensent que Jésus va revenir demain. D'autres qui disent, ben, c'est pas pour tout de suite, hein. Jésus ici répond à la question, mais d'abord, il donne des signes évidents et des actions et ce que nous devons être et faire dans ces temps de la fin. Alors vous allez me dire, on n'a jamais été aussi près. Ouais. J'ai envie de répondre à cette question pour moi, mais pour vous aussi, et vous donner des billes. Comment allons-nous faire face à ce que nous entendons? Le premier, tu peux mettre le verset 4 de Matthieu 24. 1. Aujourd'hui, nous devons discerner tout ce qui nous est dit à travers la Bible, mes frères et mes sœurs. J'ai remarqué une chose. On a tendance à prendre pour argent comptant tout ce que nous entendons sur YouTube ou sur les chaînes, enfin, peu importe. Vous prenez les enseignements, vous les écoutez. Forcément, souvent ils sont bibliques, mais vous n'allez pas vérifier dans la parole de Dieu l'enseignement de la personne. Je suis désolé, mais là, moi, ce que je vois, Jésus lui répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il y a bien quelque chose que Satan va faire. Et il l'a fait auprès de Jésus, et vous savez, on n'est pas meilleur que le maître, hein. Que fait-il quand Jésus est emmené dans le désert? Il va utiliser la parole de Dieu pour écarter Jésus de la volonté de Dieu. Et il nous est dit un peu plus loin d'ailleurs, c'est Paul qui dit ça, que Satan se déguise en ange de lumière. Ah, vous allez me dire, il faut plus avoir confiance en qui que ce soit. Non! Ce qui nous est demandé, c'est de vérifier tout enseignement. Et d'ailleurs, Jean le dit, dans les temps de la fin, il faudra éprouver les esprits et ce qui se cache à travers, derrière les enseignements. Et ce qui manque aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est une connaissance approfondie de l'Écriture, de la parole de Dieu. Parce que si nous ne connaissons pas l'Écriture, et surtout l'esprit de la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens parfois qui connaissent, mais qui n'appliquent pas dans leur vie. Des gens qui connaissent, mais qui sont aveuglés quant à leur propre existence. Donc ce que Dieu nous demande, c'est de discerner les choses en s'appuyant sur ce que dit la Bible. Donc, jeudi, il y a un bibliogroupe. Non, je plaisante, mais est-ce que vous comprenez ça? Autrement dit, est-ce qu'il vous arrive, je sais que c'est fait dans un petit groupe, mais est-ce qu'il vous arrive de reprendre les enseignements du dimanche matin avec votre Bible et de reméditer les passages? Je suis sûr que non. Ou très peu, en tout cas. Est-ce que vous comprenez que ce qui peut sortir de ma bouche peut être faux parfois. Et donc, imaginez un instant des enseignants qui vont venir ici parfois avec des signes, des prodiges et miracles. Et on dit parce qu'ils font des miracles, leur enseignement est bon. Non. Souvenez-vous ce qui nous a été prévenu et prédit par le Seigneur. Il faudra que nous soyons remplis de discernement, de connaissance. Mais pas de connaissance, vous comprenez ce que je veux dire, de connaissance du cœur du Père à travers sa parole. Et je le dis souvent, moi je suis pas musicien. Si, je discerne uniquement ceux qui chantent faux. Il est pas là. Ah si. Il est en train de me maudire. Mais si vous êtes un très bon musicien et qu'il y a une fausse note dans le groupe de louanges, vous allez entendre, non? Mais je suis sûr que quand des fois il y en a plein, là, des fausses notes, et on l'entend pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'oreille. On n'a pas l'oreille musicale. Moi, je suis désolé, mais je peux vous dire, j'ai écouté des enseignements dernièrement. où c'était très bien, c'était profond. Il y a 2-3 fausses notes dans l'enseignement que j'ai entendu. Et je suis retourné dans la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, ça, je l'accepte pas. Je prends ce qu'il m'a dit, mais c'est 3 choses sur le côté. Je les prends pas, Seigneur. Ou tu me montres si je me trompe. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes appelés à discerner les choses à travers la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Jésus dit au verset 4, « Faites bien attention que personne ne vous égare. » Et un peu plus loin, regardez ce qu'il dit. Il dit « Mais ne vous laissez pas effrayer. » Et vous savez pourquoi la peur vient dans notre cœur souvent? Parce que nos émotions et notre connaissance des événements ne sont pas basées sur ce que Dieu dit. Autrement dit, parfois il va y avoir des nouvelles, des choses qui vont arriver et la peur va venir. Pourquoi? Parce que la peur... Non, la parole de Dieu, c'est comme un bouclier qui va empêcher la peur et l'effroi de rentrer dans notre cœur. Et regardez, enfin, je sais pas qui d'entre vous a été effrayé par ce qu'il a vu à la télé, mais c'est effroyable ce qu'on voit. J'ai discuté dernièrement avec quelqu'un de ma famille et la personne me disait, quand même, ça fait peur ce que je vois. Et je lui ai répondu, oui, je sais. Mais moi, je sais qu'il est écrit aussi que je ne dois pas me laisser effrayer. Il est écrit que Jésus me protégera, qu'il sera tous les jours. Il m'a dit aussi quoi? Il m'a dit que ça sert à rien de m'effrayer, d'avoir peur ou de m'inquiéter, parce que je sais pas pour autant que je vais rajouter une coudée à ma vie. Est-ce que vous comprenez que lorsque parfois on entend des enseignements, lorsqu'on entend des nouvelles, on doit tout ramener à ce que Jésus, enfin, ce que Dieu nous a enseigné dans sa parole. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc si... Alors, je vais loin, mais tant pis, hein, vous me pardonnerez. Vous êtes obligé de me pardonner, de toute façon. Mais si tu as peur, remets en question ton analyse et ta position par rapport à ce que dit la Bible. Point. J'ai pas d'autre... Vous pouvez venir me voir et me dire, tu sais, Bruno, j'ai peur, est-ce que tu peux prier pour moi? Non, la Bible dit, point. Et applique ce que dit la parole de Dieu. Vous allez me dire, il n'a pas beaucoup d'amour. Ben, je vais aborder le sujet de l'amour après. Le deuxième point, donc après le discernement de la Bible, c'est l'unité. Regardez, il est écrit au verset 9 et 10, « Alors on vous livrera au tourment. » Bonne nouvelle. « Et l'on vous fera mourir. » Moins bonne nouvelle. « Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Aussi, plusieurs succomberont. Il est écrit dans d'autres versions, « Ils trébucheront. » Comme mon truc tout à l'heure. Ils se casseront la figure parce que leur racine, leur assise ne sera pas stable. Et regardez, le deuxième point que je veux aborder avec vous, c'est le sujet de l'unité. Alors vous allez me dire, moi, c'est quelque chose qui est sur mon cœur, mais alors, si vous saviez comme... Alors, c'est peut-être aussi mon côté pastoral, vous allez me dire. Mais moi, j'ai à cœur l'unité de cette Église, j'ai à cœur l'unité entre chrétiens, j'ai à cœur l'unité entre Églises, de travailler avec les autres, de vivre les relations avec les autres. Regardez ce que dit l'Ecclésiaste. Il est écrit dans l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Verset 10, non, n'oubliez pas. Non, c'est un, je vais te le lire, c'est pas grave. Ma mauvaise préparation. Il vaut mieux être deux que tout seul, dit l'Écriture, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, au cas où tu trébuches, au cas où tu tombes, au cas où tu es déstabilisé, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Vous savez, aujourd'hui, j'en parlais la semaine dernière, mais il y a vraiment, mais je vous le dis vraiment, une notion de l'Église qui est en train de vriller. J'entends plusieurs chrétiens dire, oh, mais je suis pas obligé de vivre ça. Je peux vivre ma foi chez moi. Il y a même des chrétiens qui disent « Je vais me retirer un temps, ça ira mieux. » Mais je peux vous le dire. Alors moi, je respecte. Hein, vous connaissez mes positions. Hein, mais moi, je peux vous dire que c'est tout le contraire. Et je l'ai toujours dit. Un jour, je souhaite pas que ça arrive, mais imaginez qu'un jour, vous dites, Bruno, on te veut plus comme pasteur. On va voter en Assemblée Générale, on va te virer. Eh bien, je peux vous dire une chose. Je sais déjà que ma première décision, ce sera de vous bénir. Et la deuxième, c'est de rejoindre une église. Parce que je connais l'importance d'être un avec les d'autres chrétiens. De me rassembler le dimanche, de vivre des temps de prière, de vivre des temps quand je viens le lundi matin à la répète, le lundi soir à la répète de louange, quand je passe du temps avec les enfants pour m'occuper d'eux, lorsque je prends du temps avec mes frères et mes sœurs au bibliogroupe, quand je prends du temps dans la prière dans le petit groupe, quand je prends du temps dans la louange avec un autre petit groupe, quand je prends du temps pour ressasser, regarder ce qui a été enseigné le dimanche. Oui, ma raison d'être, c'est d'être un, parce que Jésus a prié pour cela. Il a prié pour que nous soyons un avec lui, un ensemble avec lui, comme lui il est un avec le Père. Et vous savez, je ne sais pas si vous allez décider de rester ici, mais ce que je sais et ce dont je suis convaincu, vous ne restez pas, rejoignez une communauté, mes frères et mes sœurs. Toute personne isolée est en proie aux attaques du diable. Ce que Satan cherche à faire aujourd'hui, c'est d'isoler les églises. Alors, je vais, si j'ose, regarder ce que fait aujourd'hui la Fédération de Russie. Que font-ils? Ils isolent l'Ukraine pour mieux s'en emparer ensuite. Et toute attaque de l'ennemi, elle se déroule comme ceci. Elle prendra une personne, elle va, en général d'ailleurs, ça vient souvent de l'isolement, c'est quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, quand tu as des épreuves difficiles, lorsque souvent, malheureusement, ça vient aussi du corps de Christ, on est dessus par les frères et les sœurs, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, vous voyez ce que je veux dire? Et la première réaction, dire « j'y vais plus ». C'est faux. C'est un mensonge satanique. On va dire mensonge satanique. C'est un peu... Voilà. C'est le père du mensonge. Je crois, mes frères, mes sœurs, que dans les temps de la fin, Satan isolera les chrétiens. Et il fera en sorte que... Comment dire ? De nous isoler les uns les autres pour nous faire trébucher. Parce que dans mon renversement, dans ma chute, j'entraînerai automatiquement les autres. Et je chercherai à entraîner les autres. C'est purement satanique. Depuis que Satan a chuté, il cherche à nous faire tomber avec lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons retenir. Alors j'ai ajouté, j'ai une nouvelle citation de Bruno Vandermeersch. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai décidé maintenant de faire des citations à chaque prédication. Vous avez retenu la citation de la semaine dernière? T'as pas retenu? Mais c'est quoi cette affaire? Ce que tu es comme disciple aujourd'hui, l'Église dépend aujourd'hui de ce que tu es comme disciple. Et ce que l'Église sera demain dépendra de ce que tu deviendras. Citation Bruno Vandermeersch. 27 février 2022. Et là, j'en ai une autre, plus courte, donc plus facile à retenir, et elle est beaucoup plus simple. Je ne peux pas vivre ma foi sans la communauté. Je ne peux pas vivre ma foi sans la communauté, mes frères et mes sœurs. Je sais qu'à terme, si je suis seul, si je m'enferme seul, ma foi va s'effriter. Le troisième point, donc j'ai abordé le premier sujet, c'est le discernement par la Bible. Le deuxième point, c'est l'unité. Maintenant, je vous parlais de l'amour. À cause de la progression, verset 12, « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Il est écrit dans ma version Louis II, 21, il est écrit « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Mais, Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je crois que nous habituons à voir le mal. Oui, aujourd'hui, on s'habitue à voir des images qui nous montrent le mal. Et pourquoi sommes-nous touchés aujourd'hui, à votre avis ? Parce que c'est pas très loin d'ici. Mais lorsqu'on voit des images de peuples tués, le peuple kurde qui a été attaqué par les Turcs, lorsqu'on voit des pays du monde, dans le pays du monde entier, on se dit, on voit des images qui ne nous touchent même plus. Même des fois, on arrive à continuer à prendre notre repas en regardant les informations. Et je peux vous le dire, que l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. Et que nous devons veiller à ce que nous voyons nous touche toujours. J'ai vu hier, alors je sais pas, j'étais en train de faire une sieste et je regardais en même temps, donc il faut me pardonner. Hein. Vous savez, moi, quand je fais la sieste. Hein. Il paraît que je ronfle en plus. Il y avait une... Alors, c'était à, je sais pas à quelle chaîne. Il montrait les sévices que les Russes faisaient dans leur prison. Je ne sais pas si vous avez vu ça hier. Et il y avait, c'était horrible, hein, la description. Il valait mieux pas le voir, mais il y avait des images même qui ont été filmées, qui étaient passées pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, les gars, ils ont eu du sursis ou ils ont été acquittés, les tortionnaires. C'est scandaleux. Et à un moment donné, j'ai vu des hommes torturer un prisonnier. Et j'ai dit à Marie, tu te souviens, chérie, je t'ai dit, mais c'est pas possible qu'un homme puisse faire ça à un autre homme. Qu'un être humain puisse faire ça à un être humain. Je dis, c'est pas possible. Cet homme, il est possédé. C'est pas possible que son intelligence, que son cœur soit tellement obscurci à tel point d'aller faire souffrir quelqu'un d'autre comme ça. Et vous savez, il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre monde qui doit nous amener à prendre conscience. D'abord, que ça se soit reproché de nous et qu'on se rende un peu compte des choses, c'est terrible pour eux, mais c'est tant mieux pour nous. Prenons conscience de ce qui est en train de se passer. Prenons conscience que nous sommes appelés, mes frères et mes sœurs, à prier, à intercéder, mais pas bien plus que cela. On va le voir. La question est, est-ce que tu veux aimer ? Est-ce qu'il y en a qui veulent aimer ici ? Ouais, je pense qu'on veut tous aimer. J'ai une petite réponse. Combat ton indifférence. Et quand je dis combat, sois violent avec ton indifférence. À chaque fois que tu vois une image, dis-toi bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que du coup, j'ai pensé, vous savez, à ce fameux religieux là dans la parabole du bon samaritain. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui est attaqué par des brigands, on lui vole tout, enfin on le laisse pour mort. Et puis il y a cet homme religieux qui passe sur le chemin. Je suis désolé Jean-Raymond, je vais voyager. C'est vrai que pour lui que je fais ça. Il marche, il va au culte. Vous allez au culte le dimanche matin ? Il va au culte. Il voit un gars en train de mourir, je vais au culte. Moi, ça me touche quand je vois ça. Parce que je suis comme cet homme. Qu'est-ce que je fais pour celui qui souffre ? Qu'est-ce que je fais lorsque j'entends, je l'ai dit cette semaine, je l'ai dit à Nathan, je dis, il faut aller voir les gens dans la rue lorsqu'on fait des maraudes, et c'est pas grand-chose, hein. Par rapport à d'autres qui souffrent. Je vois des gens souffrir dans la rue, des gens rejetés, des gens qui ont faim, des gens qui ont été rejetés parfois par leur propre famille. Et moi, je peux pas continuer à aller au culte et ne rien faire. C'est pas possible. J'y arriverai pas. Et je me suis dit, j'ai dit à Maryse, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait s'il y a plein d'Ukrainiens qui viennent en France ? Mais on s'était dit qu'on était prêt à prendre des Ukrainiens chez nous. Je peux pas continuer à aller adorer le Seigneur et rester indifférent par rapport à la souffrance des autres. C'est pas possible. Alors je vous partage ce que Dieu, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Hein, d'accord? Le bon samaritain, lui, passe par là. Et que fait-il? Lui, il est touché par ce qu'il voit. Alors, il y a le fameux Jésus raconte cette histoire. Et Jésus dit, lequel de ces hommes a été le prochain de l'autre? Et le docteur de la loi qui cherchait à le, vous voyez, à le confondre, dit, c'est celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui répond, entendez bien ceci, va et toi fais de même. En fait, je suis en train de vous amener d'un temps d'adoration que nous avons vu, où on levait les mains vers le Seigneur, pour ceux qui l'ont fait. Et là, je suis en train de vous amener à baisser les mains vers ceux qui en ont besoin. Et mon frère, ma sœur, tu ne peux pas adorer sans poser les mains sur les autres. Tu veux aimer? Est-ce que tu veux aimer? Ça se peut. Eh bien, il va falloir combattre ton égoïsme aussi. Il y a un frère qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, j'étais en train de penser à mes vacances alors que tout était en train de se passer là. Forcément, moi je suis en train de penser à mes vacances bientôt, là je dois partir une semaine. Mais est-ce que c'est à ça que je dois penser? Ou est-ce que c'est à ceux qui souffrent que je dois penser? Ah là là, je vous en ai mis sur les épaules hein, ce matin. Merci Bruno. Conclusion. Est-ce que vous voulez qu'on devienne des fils d'Issachar ensemble? Pas simplement connaître les signes, mais connaître ce que nous devons faire. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Savoir ce que Dieu veut faire de moi et faire avec moi. Je ne veux pas être un théoricien de la foi, je veux mettre en pratique ce que me dit la parole de Dieu. Alors vous voulez être des fils d'Issachar? Oui? Alors on va commencer à discerner la Bible ensemble. S'il vous plaît, continuez, faites ce que vous voulez, je ne peux pas vous empêcher d'écouter certains faux prophètes. Hein. Mais continuez d'écouter, mais s'il vous plaît, prenez votre Bible avec. Vérifiez ce que dit la personne. L'unité. Vous voulez que je vous dise un truc? On n'a jamais eu autant besoin aujourd'hui que de passer du temps ensemble. Moi, entre nous, j'ai pas envie de trébucher. J'ai envie de persévérer jusqu'à la fin. Alors, si on prenait un peu plus de temps ensemble, concrètement, ben, je vous en donnais, moi, des billes. Parce que je veux vous expliquer. Moi, là, dans mardi, il y a une maraude. Je crois qu'il y en a une mardi ou il n'y en a pas mardi. La semaine suivante, ben, c'est avec Christiane, je crois, Marise et moi, on va aller distribuer du chocolat chaud, du café dans les rues à Lille. Si ça vous dit. On va passer aussi du temps dans la prière ensemble. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une soirée de prière tous ensemble? Dites-le-moi. On passe du temps tous ensemble dans la prière. Simplement. Ça vous dit que j'organise ça? Bon, on va trouver une date. Donc, on va devoir pousser les chaises et les tables puisque ça va déborder de monde. J'ai un humour grinçant, je trouve, aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça doit être les patates. Ensuite, on va s'aimer. Et quand j'en dis aimer, on va aimer et je vais essayer de combattre mon indifférence et mon égoïsme. Et j'ai envie de commencer déjà par ma propre famille, prendre du temps avec ma femme, mes enfants, prendre du temps avec vous. Et j'ai envie de bah tiens, de répondre à des besoins. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai parlé des besoins et le caca des chiens, des traîneaux. Eh bien, moi, j'ai envie de répondre aux besoins des autres et mettre de côté mes besoins pour me mettre au service des autres. Et pour cela, il va falloir que je fasse vraiment je lutte contre mon indifférence, que je lutte contre mon égoïsme. Parce que j'ai pas honte de le dire, je vais être vrai avec vous, transparent, je suis encore beaucoup indifférent et égoïste. Et vous ? J'ai fini ma leçon de morale. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit de vous dire ça. Peut-être que ça vous a parlé. Est-ce que ça vous a parlé? Alors, je répondrai ce que Jésus a répondu. Va, et toi aussi fais de même. Il était quand même, le Seigneur quand même, il avait une façon de parler aux gens qui était parfois un peu bizarre, vous trouvez pas? Il va dire à un docteur de la loi, c'est bien garçon, tu connais bien la Bible et tu as bien compris. Maintenant, qu'est-ce que tu attends pour mettre en pratique? Voilà ce qu'il lui est en train de l'amener. Donc aujourd'hui, nous allons être des praticiens de la Bible, des praticiens des commandements de Dieu, et nous allons vraiment apprendre à servir, à discerner par la parole de Dieu. Ensuite, aidez-moi, je ne me souviens plus. On va vivre l'unité et on va aimer. Discerner, unité, aimer. D-U-A. Discerner, unité, aimer. C'est comme ça que moi j'ai besoin de moyens mémotechniques pour eux. Discerner, unité, aimer. Voilà, on s'appellera maintenant l'Église D-U-A. On rebaptise Betsalel. Amen. Je vous invite à vous lever et à prier si vous voulez bien. Je veux prier, Seigneur. Oh, même si j'ai dit ça sur le ton de la plaisanterie, en fait, Seigneur, tu sais que j'étais profondément sérieux. Et c'était profondément spirituel ce que tu m'as communiqué. Parce que tu veux toucher nos cœurs, toucher nos vies. Parce que toi, tu connais le jour et l'heure où tu vas revenir, mais nous, on ne connaît pas. Et tu as dit, heureux le serviteur que son maître trouvera prêt à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si je verrai ton retour de mon vivant, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que je vais revenir à l'enseignement de la parole de Dieu. Prendre ma Bible et qu'il soit la Bible, qu'il soit ce que tu m'as commandé, ce que tu m'as enseigné, qu'il soit le fruit de mes actions, de mes réactions, de mes émotions, que ça touche cela, Seigneur. Je prie pour l'unité. Je prie pour l'unité de ton corps, l'unité du corps de Christ. Je prie pour que nos relations entre nous grandissent. Je prie pour qu'on soit vraiment un ensemble. Et je prie aussi pour que cette communauté soit un exemple d'unité dans cette région. Pour qu'on apprenne à, eh bien, Seigneur, à nous joindre à d'autres. Pourquoi pas à des catholiques, à bon Dieu. Pourquoi pas à d'autres évangéliques. Pourquoi pas à d'autres protestants. Ouais. Je prie pour cela, Seigneur. Je prie pour l'unité du corps de Christ. Je te demande qu'on soit des ambassadeurs de l'unité. Ouais. Ouais. Et enfin, je prie. Et je demande. Surtout, préserve-moi de me refroidir dans mon amour. De me refroidir dans mon désir d'aimer. Et je veux prier pour que tu me chasses de mon cœur l'indifférence, l'égoïsme. Je veux aujourd'hui mettre à ton service et au service des autres ce que j'ai, ce que je suis, pour qu'il soit honoré, qu'il soit béni à travers ma vie. Voilà, Seigneur, ce que je te demande. Et je t'en remercie, Père. Amen.